Dans quel monde?
Une émission proposée et animée par Marie-Hélène Bourret et
Alexis Gagnon. Bienvenue dans l'émission « Dans quel monde » animée par Alexis Gagnon et Marie-Hélène Bourret. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Alexis.
Alors en ce jeudi, nous allons parler d'une compagnie qui est en activité ici à Victoria et partout dans le monde.
Oui.
Une compagnie qui s'est compromise.
Une multinationale.
Une multinationale numéro un mondial du ciment.
Mm-hmm.
On parle de Lafarge. J'imagine que tu as déjà aperçu le site d'exploitation de Lafarge ici à Victoria.
Oui, absolument. Oui.
Il est situé tout près du pont de la rue B, donc le pont qui relie Vic-West à Rock Bay. Moi, j'y passe devant tous les jours pour me rendre au badminton.
Mm-hmm.
Et il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'activités.
Ben, en fait, une cimenterie, et ce n'est pas le sujet de notre émission d'aujourd'hui, mais une cimenterie, c'est parmi les industries très polluantes que l'on peut recenser, autant au point de vue de l'air que de l'eau que du bruit. Donc, mais c'est pas de ça qu'on va parler.
Voilà. Aujourd'hui, on va évoquer le rôle de Lafarge au Moyen-Orient, en Syrie plus particulièrement, où l'entreprise a financé, c'est maintenant prouvé, l'État islamique.
Quel scandale!
Voilà, c'est un scandale qui remonte au sommet de l'État français et qui nous touche aussi de façon plus ou moins directe ici au Canada, puisque l'entreprise a 300 sites d'exploitation au pays et qu'elle est partiellement détenue par des intérêts canadiens.
Voilà.
Donc, à tout de suite pour cette discussion sur le géant mondial du ciment, Lafarge. Alors, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs de la fréquence 107.9 FM, CILS. Vous êtes dans l'émission « Dans quel monde » animée par Alexis Gagnon et Marie-Hélène Bourret. Nous parlons aujourd'hui du géant mondial du ciment Lafarge, présent à Victoria. Lafarge qui a, le journal Le Monde l'a révélé en 2016, qui a financé l'État islamique, qu'on appelle aussi ISIS, comme vous voulez. Ça s'est passé en Syrie. On va d'abord...
Un petit historique peut-être, parce que c'est quand même une industrie qui a un long passé en France, surtout parce que c'est une industrie française, qui avait, dès les tout débuts, une espèce de vision plutôt social-démocrate, plutôt socialiste de la chose.
Oui, en fait, c'est du capitalisme paternaliste, je dirais.
Ouais.
C'est-à-dire que au 19e siècle, ils ont élaboré un peu le modèle de la ville-usine.
Ouais.
Hein, avec une tout à côté de l'usine, au pied des installations, des petites maisons, une petite école, une maternelle, un centre de loisirs, etc.
Donc, alors, et c'était le modèle un peu à l'époque aussi des grosses entreprises. On a eu Maillardville ici qui était exactement sur le même modèle.
Voilà.
C'était donc la façon de faire, mais on offrait les soins de santé, il y avait un petit hôpital. Donc, on prenait soin de ses employés, un peu comme on a fait au Japon aussi pendant plusieurs années, où l'employé se sentait partie intégrante de l'usine.
Oui, en fait, c'était peut-être une illusion, mais on n'ira pas là-dedans.
Ça sentait.
Alors, ils ont un peu été les précurseurs de ce modèle-là en France, en tout cas. Et inutile de dire qu'ils sont devenus énormes assez rapidement. Dès la fin du 19e siècle, ils étaient très dominants en Europe, le canal de Suez, un ouvrage assez majeur, a été bâti avec le ciment Lafarge. La bourse de New York, à la fin du 19e siècle, a été bâtie avec le ciment Lafarge. Et ils ont, grandi...
jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
Et voilà. Alors,
mais là, ils ont commencé à faire des choses...
Effectivement. Ils ont un passé avec des chapitres troubles, très discutables. Et ils se sont un petit peu arrangés pour être gagnants dans toutes les situations.
Ouais.
Alors, quand l'ennemi nazi a occupé la France au début, dès l'année 40, l'année 1940, ils ont reçu de la part des nazis, n'oublions pas, c'est une entreprise française, ils ont reçu de la part de l'Allemagne un contrat, je dirais, l'équivalent d'une muraille atlantique.
Oui, ben, c'était les bunkers là, qui étaient tout au long de l'Atlantique, oui.
Voilà, si vous avez voyagé en France, vous les avez vus, c'est des bunkers, vraiment des fortifications, en ciment, justement.
Et qui sont encore là, donc on s'approuve la qualité du produit aussi.
Voilà,
tu sais.
Effectivement, la qualité du produit qui était prélevée en Ardèche,
ouais.
où on avait un sol parfait pour ce genre de ciment, qu'ils ont contribué à inventer, hein. Au départ, c'était de la chaux.
Oui, ben, le ciment a évolué. Hein.
C'est ça. La chaux est l'ancêtre du ciment. Ouais. Bon, ils ont parfait la petite recette familiale. Mm-hmm. Et bref...
Béton armé, maintenant, bon.
C'est ça. Ouais. Alors, ils ont pactisé avec les nazis, hein, le pactole, autrement dit, énormément d'argent. Au lendemain de la libération, ils n'ont presque pas été inquiétés. Peut-être quelques petites questions.
Collaborateurs.
On a passé l'éponge.
Ouais.
On a passé l'éponge.
Une petite tape sur les doigts, c'était tout.
Voilà. Et ils ont été interrogés, mais ça n'est pas allé plus loin. Et évidemment, au lendemain de la guerre, on a eu un boom économique.
Juste une petite parenthèse là-dessus. Dans ce qu'ils ont dit comme excuse pourquoi ils avaient collaboré, ils ont dit, bien, on veut garder les emplois pour nos employés, on veut continuer à faire quand même fonctionner l'économie. C'est important, cette petite raison-là, cette petite excuse, parce que ça reviendra dans l'histoire.
Oui, voilà. C'est un raisonnement qui ne tient pas la route.
Non.
C'est complètement bancal. Le descendant des Lafarge, interviewé dans un documentaire qu'on a visionné tous les deux, a indiqué que c'était le moindre mal de collaborer avec les nazis. Mmh. Je pense qu'il y a un petit problème d'échelle là, dans son univers.
Oui.
Bref, au lendemain de la guerre, ils sont encore gagnants. Alors, peu importe la situation.
Ils gagnent.
Ils gagnent dans la reconstruction.
Ben oui, la reconstruction de la France.
Il y a énormément de villes détruites. Il faut reconstruire.
Oui.
Il y a aussi une main-d'œuvre qui arrive d'Afrique du Nord. La France est encore en Algérie. Elle a besoin de travailleurs. Il y a des bars. Hein, on les appelle les bars, les HLM.
Ouais.
C'est des immenses immeubles qui...
C'est des villes presque en soi, là, au point de vue de la population.
En quoi? En béton.
En béton.
Alors, Lafarge, comme ça, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui devient vraiment l'un des joyaux de l'industrie française. Et ils ont une implantation aux États-Unis, aux USA, au tournant des années 80. Là encore, il y a un scandale. Ils sont impliqués dans un fiasco environnemental qu'on ne pourra pas décrire en détail
ici. Non, parce que c'est un peu compliqué, là, oui.
Et par la suite, ils se retrouvent, encore une fois, je crois, à la bourse, ils sont vraiment dominants. Ils continuent vraiment de...
L'expansion tentaculaire partout sur la planète.
Voilà. Et tout ça pour dire, et aujourd'hui, ils sont candidats pour la construction du mur que Trump veut construire entre le Mexique et les États-Unis.
Et que je ne suis pas surprise là-dessus.
Voilà, donc Lafarge, s'il y a un marché, ils sont là.
Ouais.
Et au diable, les considérations éthiques.
Absolument. Alors, on en arrive donc à notre documentaire. On mettra d'ailleurs le lien sur notre site. Et
Je veux dire, le documentaire n'est qu'une des...
Un des éléments. Là.
Oui,
ça met la base de ce qui s'est passé.
C'est ça, on parle de la série. On parle de ce qui s'est passé en Syrie entre 2011 et 2015. Lafarge a acheté un site un petit peu dans sa mentalité de monopoly. Là.
Ouais.
Ils veulent acheter le bel immobilier, les beaux instruments. Le site qu'ils ont acheté en Syrie est vraiment une perle du Moyen-Orient.
Ouais.
Ils ont passé quelques années à le rénover.
Mm-hmm.
Et il était opérationnel en 2010, juste avant la guerre.
Et voilà.
Alors, c'est bien dommage.
Ils engagent beaucoup de monde, du monde local, hein, faut s'entendre aussi.
Oui.
Il y a des, parmi leurs employés, il y a des gens, surtout dans la haute direction, qui viennent de l'extérieur. Il y a cet homme dont j'oublie le nom, qui est l'espèce de négociateur, on le verra
voilà.
plus tard, un Suédois,
voilà.
Qui est connu lui aussi.
Ils ont des intermédiaires un petit peu qui font office de coupe-feu
oui.
entre eux et l'État islamique.
Oui.
Il faut savoir qu'ils sont déjà présents au Moyen-Orient, notamment en Égypte.
Mm-hmm.
Bref, leur stratégie d'expansion mondiale se poursuit. Et la Syrie, si tu veux, est un scénario qu'ils n'avaient pas prévu. À un moment donné, quand tu deviens très puissant, évidemment, tu te crois...
au-dessus de tout.
Au-dessus
hein?
de tout, et c'est ce qui est arrivé. Alors, la guerre a éclaté en Syrie.
Oui.
On a vu l'émergence d'un groupe qui s'appelle État islamique.
Oui.
Hein?
Et là, on est mal pris, hein, parce que la bataille s'approche de plus en plus de ce site où est l'usine en question.
Oui.
Ils sont comme encerclés à un certain moment donné. Et là, normalement, ils auraient dû fuir. Ils auraient dû dire, bon, écoute, on ferme la baraque, on va protéger les employés, on reviendra, on est ici, on a des bonnes relations avec les restants. C'est ce qu'on aurait dû faire. Et c'est ce qu'on leur a reproché déjà à plusieurs reprises. D'ailleurs, on leur a, il y a eu plusieurs discussions sur
oui,
ce sujet-là.
Parce que dès 2011, l'Union européenne interdit le commerce avec
oui.
l'État islamique
oui.
et les groupes armés au Moyen-Orient.
Pas de financement, là.
En Syrie en
mm-hmm.
particulier.
Mm-hmm.
Que font les entreprises françaises présentes en Syrie? On pense à Air Liquide et à Total,
ouais.
qui ne sont pas les derniers venus.
Non.
Que font-elles? Elles quittent.
Oui.
Sauf Lafarge.
Mm-hmm.
Lafarge se dit, merde, on a investi des dizaines de millions d'euros dans la rénovation de cette usine qui est maintenant notre pièce maîtresse au Moyen-Orient.
Oui.
La guerre ne va pas venir tout gâcher.
On va régler ça à notre manière. On n'a pas besoin des lois internationales, on n'a pas besoin des lois de l'Europe. On est capable de faire ça tout seul. Et ils engagent un bon négociateur. Et on en reparlera tout de suite après la pause musicale.
Donc, vers 2012, 2013, 2014, et la situation va même se poursuivre jusqu'à 2015,
mm-hmm.
Lafarge, en Syrie, et les dirigeants de Paris sont au fait. Là, on se reporte à 2012,
ouais.
2013, 2014. Qu'est-ce qui se passe? L'État islamique est dominant, contrôle cette région de la Syrie,
mm-hmm.
qui est au nord de Damas, à plusieurs heures de voiture au nord de Damas.
Et l'usine se trouve un peu entourée, là.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'État islamique exige... Hein, exige
ouais. un bakchiche. Ouais.
Donc, c'est un petit racket
ouais.
qui vise à extorquer. On sait bien sûr que Lafarge a des millions dans ses coffres, fait des affaires d'or au Moyen-Orient.
Ouais. Et partout ailleurs.
Et donc, l'État islamique va dire, ben, si vous voulez continuer à opérer, vous devez nous financer, vous devez payer un tarif au barrage.
Oui, pour laisser passer les camions qui entrent avec des matériaux, pour laisser passer les employés et pour laisser ressortir le produit fini aussi.
Oui.
Hein? Parce que le ciment, il faut que tu amènes des choses,
oui.
mais quand ça sort, tu ne peux pas garder juste ce ciment dans des entrepôts. Là.
Et à combien s'élèvent ces paiements?
Un demi-million de dollars.
Au total, on parle d'un demi-million de dollars, mais en fait, de récents articles indiquent que ça pourrait même s'élever à 15 millions de dollars.
Oh, il y a une petite différence entre un demi-million et 15 US. Millions.
Oui, c'est wow. Un article de Mediapart, financement du terrorisme. Les 15 millions de dollars suspects de Lafarge, ça date de la fin 2017. Les chiffres qui ont été évoqués jusqu'à présent, mm-hmm. effectivement, faisaient état de 500 000 euros.
Ouais.
Là, ici, on est en millions de dollars. C'est différent, mais c'est largement supérieur par un multiple de...
C'est presque un multiple de 30.
C'est ce que j'allais dire, un multiple de 30. Donc, ils ont finalement donné des ressources énormes mm-hmm. à l'État islamique. Qui a pu...
continuer à acheter des
ben,
armes.
Oui, à faire tout ce que l'État islamique fait.
Ben, faire du recrutement, faire de l'entraînement dans des camps, parce que ces gens-là, quand ils vont, il faut les nourrir, il faut les armer et tout ça. Mais ils ont fait d'autres choses.
Ben, il y a aussi eu des paiements en nature.
Oui.
On a découvert des camions Lafarge dans les repères de l'État mm-hmm. islamique.
Mm-hmm.
On a vu qu'ils avaient bâti des fortifications avec un ciment qui ressemble à s'y méprendre au ciment de Lafarge, qui, comme par hasard, était juste à côté.
Et mais aussi, ils ont fait dans les fameux tunnels, parce que tu sais qu'il y a une espèce de métropole de tunnels qui est en dessous, là, partout, et ils ont renforcé leur tunnel avec ce ciment-là, le rendant impossible à traverser. Alors, même si on bombarde, il va falloir bombarder très fort, avec beaucoup de puissance de frappe, pour être capable de défoncer les tunnels. Donc, d'atteindre l'État islamique.
Donc, paiement en liquide, paiement en nature, tout cela par l'intermédiaire d'un ancien allié de Assad qui mm-hmm. est devenu un
par
petit
hasard.
Peu un
négociateur,
un brasseur d'affaires sulfureux qui faisait justement des deals avec l'État islamique.
Ouais.
Il y a aussi cet ancien espion norvégien Lafarge a recruté pour assurer la sécurité de son site. Bref, ils étaient prêts à tous les risques, à tous les compromis pour tenir ce site en vie, peu importe le prix, peu importe le sang versé.
Non seulement le sang versé parmi les civils, parmi la force armée qui se battait contre les gens de l'État islamique, mais aussi parmi leurs employés. Parce que leurs employés, leur vie était mise en danger. À toutes les fois qu'ils passaient le barrage, ils étaient arrêtés, que ce soit pour venir à l'usine, que ce soit pour sortir, pour aller livrer. Ils étaient toujours arrêtés au point de contrôle, ne sachant jamais. D'ailleurs, dans le documentaire, on le voit très bien, l'homme le dit, on ne savait jamais si on allait être capable de passer.
Oui, et on ne savait pas si on allait finalement être enlevé, parce qu'il y avait beaucoup de kidnappings contre rançon dans cette région-là.
Alors, 15 millions, c'était pas assez?
Non, effectivement. Alors, quand on compose avec la folie de l'État islamique, quand on essaie de pactiser avec un mouvement aussi volatile et extrémiste, eh bien, ça mène évidemment à une conclusion logique qui est le naufrage de cette usine-là, puisque l'usine a finalement été prise en main par l'État islamique.
Ouais.
Cette stratégie-là était condamnée d'avance.
Ouais.
Et je voudrais, si tu permets, revenir aussi sur l'État islamique. Qu'est-ce que c'est l'État islamique? Là, il ne faut pas oublier que Lafarge a son siège à cette époque à Paris.
Ouais.
L'État islamique, c'est l'organisation qui a perpétré tous les attentats que l'on sait en France, Charlie Hebdo, Nice, le Bataclan.
Oui.
Hein? Alors,
et c'est à l'époque où on se parle.
C'est,
c'est
contemporain ou presque. Les dirigeants de Lafarge ne sont pas sans savoir
avec qui ils font
la
affaire,
folie destructrice et meurtrière de cette organisation-là.
Alors, est-ce qu'on on pourrait dire que moralement, ils ont contribué aux morts qui ont eu lieu à Nice, à Charlie Hebdo et tout ça. Parce que, ayant versé de l'argent à ce groupe-là, qui a permis de payer des voyages en avion et tout ça,
on
peut se poser la question.
Ils sont, en tout cas, aujourd'hui visés, les anciens hauts dirigeants de Lafarge, parce qu'ils ne sont plus là. Hein?
Ouais.
Le scandale est assez gros pour avoir fait des vagues, quand même, heureusement. Alors, les anciens dirigeants, ils sont six. À être mis en cause actuellement. Ils vont faire face à un procès. Il y a donc une procédure très longue qui est inédite parce que c'est très rare de voir...
Ben, c'est la première fois qu'ils se font prendre.
Oui, ils
C'est
sont
vraiment juste ça, parce
là.
que ça existe sans doute ailleurs aussi,
Mais
là.
on n'a jamais vu un géant de la bourse française être poursuivi pour ce genre d'affaires.
Alors, on a ici l'ex-PDG Bruno Lafont, l'ex-directeur général de Lafarge-Holcim, parce que Lafarge a été comme acheté par une entreprise suisse
Oui.
à un moment donné, Holcim.
C'est un groupe franco-suisse
Ouais.
désormais, et il y a une participation canadienne, entre parenthèses, de la société Power Corp, une société montréalaise qui.
Est-ce qu'ils étaient déjà compadres à ce moment-là
Oui,
ou oui? OK, donc
oui.
on devait savoir quand même ce qui se passait.
Écoute, ce sujet-là nous concerne, Marie-Hélène,
Oui.
en tant qu'habitant de Victoria, en tant que Canadien, et aussi en tant qu'électeur, à
Oui.
qui on dit perpétuellement État islamique égale
Méchant.
ennemi.
Méchant,
Il faut aller bombarder, il
oui.
faut aller combattre
Ouais.
là où se trouve l'État islamique. Alors, quand on découvre une affaire comme celle-là, quand on voit
Ouais. Que nos impôts,
que
quelque part, hein?
des Occidentaux ont financé l'État islamique, ça soulève des points d'interrogation
Ouais.
assez énormes. Donc, six anciens cadres de
Ouais.
Lafarge, comme tu le disais, tu
Ouais.
nommais Lafont, entre autres, sont
Ouais.
mis en cause. Il y a aussi une ONG, une
Ouais.
organisation non gouvernementale, qui poursuit de son côté, en plus du gouvernement français, Lafarge pour, je crois que c'est non-assistance à personne en danger ou mise en danger de ses employés.
Mise en danger, je pense, de ses employés, parce qu'effectivement, comme on dit tantôt, on ne savait jamais quand ils allaient être kidnappés, tués. Et monsieur dit, dans le type qui est interviewé, un homme dans la cinquantaine, je pense, local, il dit, ben, on avait des amis qui disparaissaient. On se disait, ben, est-ce que c'est moi le prochain? Ou on rencontrait un ami dans le corridor, puis on se disait, ben, est-ce que c'est la dernière fois que je le vois? Alors, non seulement eux, mais leur famille aussi qui étaient mises en danger parce que la façon de fonctionner de ces groupes terroristes, c'est pas juste une personne qui est ciblée, c'est son entourage, c'est sa famille, ses enfants, son
Voilà.
épouse. Donc, ça a causé des problèmes chez eux. Et là, maintenant, ces gens-là, ben, ils finissent sans emploi. Et ça, quand je disais tantôt, quand ils ont fait le truc avec, ils ont collaboré, en fait, avec les Allemands, ce qu'ils disaient, ben, on veut garder l'économie qui roule, la guerre va finir, on veut payer nos gens, blablabla. Ben, ils ont dit la même chose avec ce qui s'est passé en Syrie. Ils ont dit, ben, nous, on voulait continuer à faire travailler les locaux,
Oui.
ça allait finir à un moment donné, on voulait garder nos gens, c'est du bon monde.
Voilà.
Alors, ils ont joué la même carte un peu, mais cette fois-ci, ça passe pas.
Leur défense est assez faible.
Ça
D'ailleurs,
passe pas.
leur défense, par ailleurs, se limite à dire on ne savait pas, et d'autre part, on ne faisait qu'exécuter les ordres. Alors, ils jouent sur
Ouais.
ces deux arguments-là.
Ben.
Les preuves sont maintenant accablantes parce que depuis le scoop du journal Le Monde, qui remonte au 21 juin 2016, il y a eu d'autres journaux qui se sont intéressés
Qui ont fait dans
au
des enquêtes
sujet.
journalistiques,
Il y a
oui.
des chaînes de télévision, il y a le journal Mediapart aussi qui s'est intéressé à
Ouais.
ça. Donc, des preuves
Commence à sortir de plus en plus,
ont
là.
fait surface et
Ouais.
c'est assez accablant pour Lafarge. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on va juste résumer en quelques mots. On est en train de discuter de l'implication de Lafarge en Syrie. Lafarge, cette entreprise qui gère un site
Ici, à Victoria.
de ciment, donc c'est un cimentier qui est présent ici à Victoria et dans 300 autres sites au Canada, propriété partiellement détenue au Canada. Donc Lafarge qui a sponsorisé l'État islamique en Syrie entre 2012 environ et 2015. Maintenant, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire-là, c'est qu'on peut la qualifier d'affaire d'État.
Oui, parce que lorsqu'ils ont été comme, non pas mis en accusation, mais que l'enquête a commencé à se faire, tout le monde a dit, ben, vous avez fait ça en secret, personne ne savait. Et les gens de Lafarge ont dit, non, 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 on coulera pas tout seul. On sera pas les seuls avec des souliers en ciment dans le fond de la rivière. Les gens responsables vont avoir à faire face à leurs responsabilités. Et ils ont commencé à sortir des choses. Donc, ils avaient rendez-vous plusieurs fois en France directement avec le ministère, je pense, de la Justice,
Le ministère
des Affaires étrangères,
et les
voilà.
services secrets.
C'est ça. Alors, soi-disant qu'ils avaient rencontré, non, 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 on les a pas rencontrés, c'est la première fois. Et finalement, alors ça finit par dire, oui, c'est vrai, on a a des preuves, c'est vrai, ils les ont rencontrés, ils leur ont dit, il n'y a pas de problème, vous faites une bonne job, on a besoin de Lafarge en Syrie,
oui.
On va être là pour la reconstruction, hein? On reste dans le même...
Évidemment, l'État français va être très habile à dissimuler un petit peu ce qui s'est passé.
Ouais, puis à remettre la faute seulement sur Lafarge.
L'agenda d'un des dirigeants de Lafarge était rempli de rendez-vous avec les services secrets, hein, pour les ressortissants français qui nous écoutent, avec la DGSE, qui est l'acronyme un peu qui pourrait être ici le SCRS ou la CIA, comme vous voulez, peu importe. Lafarge avait des rendez-vous fréquents avec les services secrets français qui... présume-t-on, souhaitait que Lafarge reste au Moyen-Orient parce que ça fait partie du coffre à outils de la diplomatie française. C'est un atout, hein? C'est une carte, un as dans le jeu des Français. Parce que qu'est-ce qui va se passer, là? La Syrie est en ruine.
Oui, mais totalement en ruine.
Penses-tu
il y a plus
qu'il y a de l'argent
là
à faire dans la reconstruction?
Écoute, et puis surtout dans le ciment, parce que c'est le matériau le plus facile. Ils n'ont pas d'arbres là-bas pour dire on va faire des constructions
d'arbres. D'après toi, est-ce qu'il y a,
ils ont vraiment le pied, ils ont vraiment le pied dans la place, là.
Alors, il y a évidemment le ministre Laurent Fabius qui était aux affaires à cette époque-là, au ministère des Affaires étrangères ou Commerce extérieur, je ne sais plus exactement, qui nie. En bloc que l'État français ait encouragé Lafarge à rester sur place.
D'accord, ils les ont pas découragés.
Mais disons que si
qui ne dit mot qu'on sent.
Voilà, si on lit entre les lignes, on voit que l'État français avait envie de garder cet atout important au Moyen-Orient, surtout dans la perspective d'une reconstruction, parce que c'est ça le pattern de Lafarge.
Oui, oui, oui.
La guerre, c'est du profit.
Ben, regarde.
Quelque part, Lafarge a intérêt à ce que des guerres aient lieu.
Ben oui.
Se déclarent, se terminent, recommencent.
Ben, tout ce qui est belliqueux.
C'est le grand cycle de la vie pour Lafarge, c'est la guerre.
Mais vois-tu, tout ce qui est belliqueux rapporte de l'argent. Tu dis, par exemple, qu'ils ont fait des propositions pour le mur de M. Trump.
Oui.
C'est belliqueux. C'est agressif comme moyen.
Oui.
Alors, ils se placent toujours en position dans des États, dans des pays où c'est dangereux. Ici, évidemment, au Canada, à moins qu'on se fasse un pipeline en ciment, il ne devrait pas avoir trop de problèmes.
Ben, on a quand même 300 sites d'exploitation.
Ouais,
Lafarge Canada, vous irez sur leur site.
Ouais. Écoute,
Lafarge qui essaie de se faire passer pour un bienfaiteur de l'environnement, mais ça, c'est une autre histoire.
C'est un autre,
Mais avant qu'on glisse vers autre chose, sur le sujet de la guerre, justement, Marie-Hélène, tu sais que la Syrie, ça se poursuit, hein?
Oui, ça continue.
Nous, dans notre narration d'aujourd'hui, on s'arrête en 2015 parce que c'est à ce moment-là que
ça a vraiment sorti.
Que
là,
l'usine a dû fermer.
Ouais.
Elle a été prise par l'État islamique.
Ouais.
Donc, ça a mis fin à cet arrangement très condamnable. Mais la Syrie, c'est toujours le chaos.
Mm-hmm.
Hein? C'est des pertes en vie humaine. Plusieurs centaines de milliers
le dernier problème qu'ils ont eu avec le chlore, là.
Il y a des attaques chimiques présumées, ben
moi, Alexis,
véritables. Laisse-moi arriver juste au bout.
Ouais.
Je te lis une manchette parue il y a quelques jours, en date, en fait, du 17 avril. C'était cette semaine. Defense contractors saw 10 billion stock boost following Syria airstrikes.
Ouais. Donc, la bourse a pris du mieux à cause de...
Oui. Les marchands d'armes, les fabricants d'armement ont vu leur titre exploser, hein, avec et sans jeu de mots, à la bourse suite aux récentes attaques présumées chimiques en Syrie. Donc, la guerre, c'est le business des fabricants d'armes, mais c'est aussi, quelque part, en grande partie, le business de Lafarge, malheureusement.
Bien, et on a toujours dit, moi, quand j'étudiais sciences politiques au collège, le professeur nous avait dit que quand ça va mal dans l'économie d'un pays, on pense à faire la guerre quelque part.
Oui.
Alors, l'économie, par exemple, si on regarde l'économie des États-Unis, ça va pas très bien.
Hein, pense que les États-Unis sont en guerre depuis leur fondation.
Oui.
Environ 85 % du temps.
Oh, oui, oui. Il y a toujours une chicane quelque part dans laquelle ils vont se mêler qui ne les regardent pas.
Pas nécessairement. C'est rare que ça les regarde. Oui.
Ouais. Et donc, c'est la guerre, c'est le nerf de l'argent. Hein? C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Et quand il y a une guerre et que les hommes s'en vont ailleurs, il y en a un bon paquet qui se font tuer. Et puis, les femmes vont sur le marché du travail pour faire des armements. Donc, Deuxième Guerre mondiale,
oui,
c'était comme ça.
Oui, on parle surtout de... Oui.
Mais c'est un peu le même principe. On construit de l'armement. Cet argent-là, les gens qui travaillent dans l'armement vont le dépenser. Ça produit des petits. Il faut faire de l'acier. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut aller chercher du charbon. Donc, c'est une ligne directrice.
Oui, c'est un business. Et évidemment, le Moyen-Orient est un endroit stratégique pour ses ressources.
Ouais. Mais aussi parce que...
En tant que lien entre l'Europe et l'Asie, pour toutes sortes de raisons historiques également.
Oui, mais parce que c'est un endroit, le Moyen-Orient, qui est toujours instable.
Oui.
C'est toujours instable.
Mais
alors,
pour les raisons que je viens d'indiquer.
Oui, c'est ça. Donc, avec un pied dans l'endroit, ils sont sûrs quelque part de gagner. OK? Si c'est pas en Syrie, ça va être dans un pays voisin.
Voilà. T'sais. Donc, gagnant en toute situation, c'était le modèle de Lafarge. Mais bon, il y a une petite once de karma là, qui s'est manifestée dans la vie réelle.
Oui.
Alors, on essaiera de suivre attentivement
le
long procès qui s'annonce. Mm-hmm. Hein? En fait, il y en a deux. Celui du gouvernement français qui vise les anciens dirigeants, mais aussi...
C'est de l'ONG qui vise le gouvernement, en fait.
La plainte de Sherpa.
Ouais.
Qui vise également Lafarge. Donc, on va suivre ça. Intéressez-vous au sujet, vous aussi, auditrices et auditeurs. Vous pouvez commencer par le documentaire qui nous a ouvert les yeux à Marie-Hélène et à moi-même.
Je vais le mettre en ligne tout de suite sur Facebook.
Voilà. Ouais. Donc, si vous tapez dans YouTube Lafarge complément d'enquête 22 mars, Lafarge complément d'enquête 22 mars, vous avez ce long reportage très fouillé, très documenté, de plus d'une heure, sur cette situation donc qui remonte à 2007 jusqu'à 2015. Très bien fait. Complément d'enquête sur YouTube, l'édition du 22 mars.
Et pour terminer, toi et moi, avant l'émission, on a discuté un peu. Et moi, je me disais ce matin, en m'en venant, justement, parce que je pensais à l'entrevue de cet après-midi, je me disais, c'est un peu l'espèce de déshumanisation de chacun des individus qui fait partie d'un groupe comme celui-ci. Alors, chaque individu, personnellement, est peut-être pas une mauvaise personne, ne ferait peut-être pas de mal à une mourche, mais une fois qu'on fait partie de ce groupe, un peu comme un groupe d'adolescents qui commence à faire du harcèlement, chaque individu en lui-même peut-être ne ferait pas du harcèlement, mais perd son identité. Alors, dans ces grosses compagnies multinationales, on a ce type de comportement-là où les individus perdent toute identité et finissent par s'identifier à la corporation, à la compagnie, à l'entreprise et agissent...
À l'impératif de,
c'est
de gagner...
C'est ça, des sous, toujours, encore et toujours.
Effectivement, l'engrenage, une fois qu'il est entamé, une fois qu'il est engagé et qu'il a son air d'aller... il est difficile, effectivement, de l'arrêter, surtout lorsque cet engrenage bénéficie de l'appui tacite
du gouvernement.
Alors, on va s'arrêter là-dessus. Le sablier s'est écoulé complètement. Il faut aussi aviser nos auditeurs qu'il s'agissait de la dernière de « Dans quel monde » saison 1.
Oui.
Alors, ça fait déjà 3 mois, Marie-Hélène.
Ça va vite, hein?
Ça va très vite.
Comment qu'on a fait des émissions, non?
On en a fait 12.
Comme si on avait juste fait une ou deux, là.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a encore tant de sujets en banque. Il y a des sujets sur lesquels il faudra revenir, comme les oléoducs, vous vous en doutez.
Ouais. Ben là, on va peut-être avoir des nouvelles très rapidement. On a jusqu'au 31 mai, soi-disant, mais je pense que ça va aller plus vite que ça.
Oui, pour Kinder Morgan?
Ouais.
Bon, mais c'est à suivre. En tout cas, nous, on espère vous revoir pour la saison 2 de Dans quel monde?
Au mois de septembre, sans doute.
Au mois de septembre, à la rentrée, on fera une nouvelle course de 12 épisodes.
Ouais.
Et d'ici là, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info@cils.ca.
Au plaisir.